La fête du livre à Saint-Louis. La fête du livre à Saint-Louis, c'est du 3 au 7 décembre 2008 à la place Federbe et place Abdoulaye Wade, avec comme programme colloque, exposition, animation de quartier et concert. Cette fête du livre est organisée par le Cercle des écrivains et poètes de Saint-Louis et l'association Colère du présent d'Ara. Donc, comme je disais tantôt, c'est du 3 au 7 décembre 2008, ici à Saint-Louis, à la place Federbe et place Abdoulaye Wade. C'est la fête du livre, donc toute la population y est conviée.
Bienvenue au Sénégal, ñow ak jamm ci Sénégal.
Moi, ma mère me disait souvent que impossible n'est pas sénégalais.
On veut qu'on entend nos voix. Okay. C'est comme ça.
Ça va au-delà du livre, hein. C'est culturel. Comme l'a dit l'autre, c'est tout ce qui va rester quand il n'y aura plus rien.
Donc, vous m'écoutez, vous tous. Vous faites du thé et puis vous restez sur une natte. On va commencer l'émission. OK?
Niofar, on est ensemble ou quoi?
Niofar, on est ensemble. Une série d'émissions réalisées lors de la première édition de la Fête internationale du livre à Saint-Louis du Sénégal en décembre 2008. Émission réalisée avec le soutien de la FRANF, Fédération des radios associatives du nord de la France, et de l'EPRA, échange de production radiophonique. Série Niofar, on est ensemble, 10e émission. Aujourd'hui, on est sur la place Federbe, en plein centre de la ville de Saint-Louis, sur le lieu du Salon du Livre en lui-même, c'est-à-dire au milieu des stands d'auteurs. Des écrivains sont venus pour l'occasion du Sénégal, du Mali, du Burkina Faso, de France métropolitaine, de La Réunion, de Nouvelle-Calédonie, entre autres. C'est là qu'on a rencontré Mamadou Ablaye Ndiaye, professeur de philosophie et auteur de différents ouvrages sur les thèmes du progrès social au Sénégal et aussi de la presse sénégalaise. C'est sur ce dernier thème qu'on a choisi de centrer cette interview. On écoute donc Mamadou Ablaye Ndiaye.
Depuis l'avènement de Blaise Diagne, bon, vous avez sans doute entendu parler de Blaise Diagne, c'est le premier député noir au palais de Bourbon. Bon, il a gagné les élections de 1914 contre Carpo. Bon, évidemment, il avait déjà lui l'idée que la presse accompagne le jeu politique. Donc, en vérité, la conscience d'une presse politique, évidemment, a fait corps avec l'avènement de partis politiques. Donc, c'est le jeu politique qui a assuré l'éclosion de la presse. Et dans la mesure où les idées politiques sont véhiculées à travers cette presse, d'autant plus qu'à l'époque, la politique était organisée dans l'espace de ce qu'on appelle les quatre communes, bon, où il y avait effectivement des lettrés, bon, des écoles. Les écoles sont développées dans ces quatre communes, particulièrement Saint-Louis, Gorée-Rivière et Dakar. Et il y avait quand même un potentiel de lecteurs assez important. Bon, mieux, ils étaient aussi des électeurs, hein, ils avaient la citoyenneté française, bon, et étaient à même vraiment de lire la presse. Et c'est dans ce sens que la plupart des partis politiques qui ont émergé pendant cette période ont créé aussi leur journal politique. Bon, c'est dans ce sens que la presse a vu le jour. Donc c'est sur toile de fond de lutte politique que la presse émerge, n'est-ce pas? Bon, ça se développe avec l'avènement des Senghor, hein, bon, qui crée aussi une presse pour accompagner son mouvement novateur avec le BDS, voyez. Bon, et ça se développe avec le mouvement des indépendances, où la plupart des partis politiques d'opposition, ou du moins qui étaient opposés au projet de Senghor, avaient aussi forgé leur outil médiatique. Et je pense particulièrement à Mom Sereo du PAI. Hein, bon, et ce faisant, on a assisté à un développement fulgurant de la presse politique. Bon, c'est après coup maintenant que la presse va s'arracher du jeu politique, hein, pour se constituer en presse libre, en presse d'opinion libre. Mais ça, il faut attendre les années 80. Hein, bon, à la faveur de l'initiative de quelques hommes de presse, la plupart du temps sortis de l'école de journalisme Sesti. Bon, ces hommes, effectivement, vont, dans certaines mesures, prendre des initiatives pour créer des organes de presse. Bon, et s'arracher à l'emprise du politique. Bon, ainsi, il y a un basculement qui va s'opérer de la presse politique à la presse d'opinion. Vous voyez, bon, ce courant a été initié. Et évidemment, bon, les balbutiements commencent avec Mam Lesdia qui crée Le Politicien, bon, Boubacar Diop qui crée Promotion. Voyez, bon, mais c'était des journaux hebdomadaires. Bon, on verra plus tard la question du quotidien avec Sud du Quotidien, Wolf Quotidien. Voyez. Bon, et dans ces organes, on voit des professionnels, maintenant pas des politiques, mais des professionnels du journalisme, prendre en main vraiment une nouvelle dynamique médiatique, hein, la presse d'opinion. Bon, on y retrouve essentiellement des journalistes issus de l'école du journalisme de Dakar, de Sesti. Bon, c'est ça en fait le renouveau. Et ça se développe et ça devient un acquis certain. Bon, à partir de 1994, maintenant, on assiste à l'avènement de radios libres, voyez, comme Sud FM, hein, comme Dunia FM, hein, Nostalgie FM. Bon, et là, on a un éventail de médiums, bon, qui autorise à parler maintenant de pluralisme médiatique. Bon, et c'est ce pluralisme médiatique qui aujourd'hui a favorisé, comme on dit, l'éclosion de la démocratie sénégalaise, parce que les opinions circulent librement, hein, parce qu'il y a des vecteurs de plus en plus libres qui les relaient. Voyez, et ça explique un peu, c'est pas cette singularité, mais ce qu'on appelle l'exemplarité sénégalaise. Bon, parce qu'au moment où cette presse s'est développée ici, dans les autres pays, il y avait vraiment le règne du parti unique et pas cette tradition politique dans ces autres pays. Bon, donc on peut penser que c'est dû au statut peut-être privilégié du Sénégal, bon, qui était une colonie à part entière, privilégiée, à l'instar des départements d'outre-mer. Et, bon, avec la ville de Saint-Louis, la ville de Rivus et de Dakar, qui sont des prolongements de la métropole. Hey, c'est comme si sont des excroissances de la France. Bon, on s'est rapidement familiarisé avec le jeu politique moderne.
Mamadou Ablaye Ndiaye à propos de la liberté de la presse actuellement au Sénégal.
On assiste de plus en plus à une tentative de récupération de la presse, et voire même de son démantèlement, de la presse libre, je veux dire. Bon, vous savez, à l'époque, la presse avait contribué de façon magistrale au triomphe de l'alternance, bon, de façon libre, hein, pas de façon partisane, mais de façon libre, bon, en relayant simplement les opinions politiques les plus porteuses. Bon, et ça a permis, ça a en tout cas contribué au basculement politique qui a amené Vard à la magistrature suprême. Bon, mais après, bon, l'autorité nouvellement installée, bon, a quand même changé de posture, bon, en prenant la presse pour un adversaire, dans la mesure où simplement le fait de porter l'information, la bonne information auprès des citoyens, pour leur permettre d'avoir un jugement libre et vu d'un mauvais œil par le pouvoir. Bon, et depuis maintenant, on a assisté vraiment à une escalade contre la presse, bon, voire même à une tentative d'enrégimentement. Bon, dans ce sens d'ailleurs, on a écrit une série d'articles, bon, pour essayer d'analyser le phénomène. Pourquoi cette crise? Évidemment, cette crise réside dans une contradiction fondamentale, hein, bon, qui déborde, hein, le Sénégal, hein, parce que je pense que c'est une contradiction essentielle. Évidemment, le pouvoir par essence, vous savez, les politiques par essence opèrent dans le mystère. Bon, vous savez, même si la Constitution du Sénégal a inscrit en lettre d'or la transparence dans la Constitution, il n'en demeure pas moins, vrai, que la pratique politique, particulièrement la pratique officielle, bon, opère toujours dans la tour d'ivoire. Donc on a toujours la culture du secret et du mystère. Et que le journaliste par essence, bon, informe, il doit porter l'information, doit la chercher. Bon, ou dans les profondeurs du labyrinthe du pouvoir. Vous voyez, Bon, ainsi, bon, on assiste à l'achoppement entre ces deux protagonistes du jeu politique. Bon, le pouvoir qui a tendance à occulter ses pratiques, hein, le journaliste qui a tendance à éclairer la lanterne des citoyens en portant l'information, vous voyez, il y a là une contradiction fondamentale, bon, et qui débouche maintenant sur l'hostilité. Bon, et ainsi, le pouvoir, souvent, bon, porte la contradiction aux journalistes, leur fait même un faux procès, hein, sous le prétexte fallacieux de diffusion de fausses nouvelles, vous voyez, atteinte à, je ne sais pas, atteinte à la dignité des institutions, hein, offense au chef de l'État, que sais-je encore. Oui, tout ça, c'est dû à c'est la contradiction dont je viens de parler qui génère effectivement ces chefs d'accusation. Bon, et de plus en plus maintenant, le pouvoir a tendance, en tout cas, à museler la presse, hein, pour bâillonner l'information afin de pouvoir agir en solitaire. Vous savez, les pouvoirs en Afrique, bon, en fait, s'exercent de façon solitaire. Et la presse, souvent maintenant, est considérée comme une force qui pêche en nos troubles. Bon, et c'est ça le problème. Maintenant, au niveau des, dans le cadre de cette hostilité, on peut citer beaucoup de cas de figure. Hein. Bon, l'autre a essayé de confisquer l'aide à la presse, hein, en refusant de l'octroyer aux journalistes. Bon, après quand même des réaction vigoureuse, bon, a dû céder, mais en changeant les modalités d'octroi, hein, en privilégiant une presse inféodée, hein, à l'État, hein, à telle enseigne que d'ailleurs certains organes de presse ont refusé de prendre leur dû. Oui, frustrés, hein, ils ont refusé de prendre leur dû en considérant que cette aide n'a pas été distribuée selon effectivement les termes de la loi. Et, bon, donc c'est ça un peu le problème. Bon, maintenant, il y a un aspect qui s'y greffe et qui est tout à fait particulier. Bon, c'est que le chef de l'État du Sénégal, en l'occurrence Maître Abdoulaye Wade, bon, a toujours affectionné la presse. Bon, il a toujours déployé des efforts pour disposer d'une presse. Bon, donc, son parti voit le jour avec un organe de presse, le Démocrate. Voyez, bon. Et après, il tente de créer des organes de presse qui opèrent sur l'échiquier de façon régulière, comme Takoussane, par exemple, et ensuite comme Sopi. Vous voyez, donc il a toujours voulu cheminer avec la presse. Si bien que, quand des journalistes opèrent de façon parallèle, hein, ou de façon contradictoire, vous voyez, bon, il est un peu dérouté dans son ambition de s'accaparer du pouvoir médiatique. Voyez. Et celui-ci, maintenant, hein, est vu par ce dernier comme un contrepoids. Voyez, comme un contrepoids dangereux qu'il faut museler pour préserver effectivement la stabilité du pouvoir. Bon, donc, c'est ça le grand problème. Bon, c'est d'autant plus vrai qu'il estime qu'il est venu à bout de toutes les velléités, hein, oppositionnelles. Hein, qu'il a su circonscrire l'opposition, qu'il a pacifié les syndicats. Hein, bon, maintenant, seule la presse, hein, n'a pas été domptée. Oui, et si le pouvoir est ébranlé, c'est parce que la presse est encore debout, hein, et fait contrepoids à l'autoritarisme. Bon, ça révèle maintenant l'acuité, en tout cas de la contradiction, parce que, en fait, toutes les contradictions qui oppose le pouvoir, n'est-ce pas, aux autres forces sociales, bon, effectivement, sont canalisées, hein, bon, dans le cadre de cette contradiction fondamentale qui met aux prises le pouvoir et la presse. Oui. C'est pourquoi nous disons dans un de nos articles que, en fait, la presse est le foyer où se réfractent toutes les apories de la société sénégalaise aujourd'hui. Oui, parce que c'est la force qui fait face. Qui fait face. Bon, par devoir, hein, par devoir. Parce que la presse nécessairement doit informer. Donc par devoir doit informer. Et en informant par devoir, ça tire effectivement les fours d'un pouvoir autoritaire, hein, qui veut opérer en solitaire.
Dernière partie de notre entretien avec l'auteur et professeur de philosophie Mamadou Ablaye Ndiaye. On a terminé l'entretien en lui demandant ce qu'il pensait de cette fête internationale du livre à Saint-Louis. Pour lui, cette série d'événements s'inscrit dans le développement au Sénégal d'une culture du savoir.
Le savoir, évidemment, est le socle du développement. Bon, si vous interrogez l'Europe, l'Occident, vous réalisez aisément que le développement d'aujourd'hui est le produit effectivement du savoir bon, initié dès la fin du Moyen-Âge. Bon, je pense particulièrement aux grands intellectuels et chercheurs et savants de la Renaissance, n'est-ce pas? Bon, comme Léonard de Vinci, comme Dürer, comme Montalembert. Bon, ce sont ces gens qui ont libéré les esprits, qui ont favorisé, comme on dit, l'éclosion du génie et du talent, n'est-ce pas, pour qu'on puisse effectivement faire preuve de créativité et inventer. Voyez, si la machine à vapeur a vu le jour en Angleterre, c'est grâce effectivement à la libération de la pensée initiée par les libres penseurs italiens au 15e. Donc le savoir quand même est fécond, et c'est lui qui sous-tend tout progrès. Bon, évidemment, dans les pays comme les nôtres, bon, où le pragmatisme l'emporte sur toute considération, on n'est pas à même d'évaluer à sa véritable dimension la notion de savoir, la notion de culture et la notion de pensée. Bon, et le retard de l'Afrique, et particulièrement selon nous, le retard de l'Afrique réside aussi dans cette absence, dans cette absence radicale. De culture du savoir. Je ne dis pas du savoir, mais de culture du savoir. C'est-à-dire problématiser le savoir, en faire un enjeu capital pour réaliser qu'on ne peut inventer, créer que si le savoir, effectivement, bon, dispose d'une promotion véritable. Bon, tant que cette politique n'est pas faite, bon, on sera obligé de procéder à ce qu'on a pu appeler dans les années 70 les transferts de technologie. Voyez, on reprend et le mimétisme sera toujours effectivement de mise. Or, le mimétisme n'est qu'un plaquage, n'est qu'un greffage. Il n'est jamais le lieu vraiment d'un développement véritable. Parce que pour se développer, il faut inventer. Il faut le made in. Comme on dit dans notre premier livre, made in Sénégal. Comme on dit made in Taïwan. C'est le made in qui consacre vraiment le succès d'un pays dans le cadre d'un projet de développement. Bon. Or, sans le savoir, on n'a pas les atouts pour avoir ce sens de la créativité, de l'inventivité, pour fabriquer. Voyez, bon, c'est un débat qui rebondit. Bon, ces temps derniers, d'ailleurs, on s'est beaucoup intéressé à la question de la fracture numérique, qui est une problématique chère au chef de l'État. Mais on pose un problème sérieux. La fracture numérique peut-elle être résorbée si la fracture nord-sud n'est pas résorbée? Voyez, c'est la fracture nord-sud. Parce que la fracture première, c'est la fracture nord-sud. Or, cette fracture nord-sud prend forme dans ce qu'on appelle la division internationale du travail. Bon, où nos pays, effectivement, sont circonscrits pour être des fourvoyeurs de matières premières et où, effectivement, on sous-évalue la valeur effectivement, de ces matières premières. Vous savez, ça, on le sait depuis belle lurette. C'est de façon arbitraire que les prix des matières de base sont déterminés. On dit, voilà, l'arachide coûte tant, doit coûter tant. Et c'est celui qui achète qui détermine le prix. Mais le Sénégalais ou l'Africain qui achète un logiciel, il ne détermine pas le prix. Mais l'Occidental qui achète le coton du Mali ou l'arachide du Sénégal en détermine le prix. Et c'est ça la division internationale du travail. C'est le lieu de la fracture nord-sud, n'est-ce pas? Et quand cette fracture est pérenne, bon, en fait, c'est de l'illusion que de parler de fracture numérique. Ouais, pourquoi? Parce que cette fracture numérique ne peut pas être résorbée quand la fracture nord-sud est en l'état. Oui, parce que pour venir à bout de la fracture numérique, il faut que les Africains créent eux-mêmes leur propre projet numérique. Oui, sinon, ils feront du mimétisme. Ils vont importer des machines pour faire des programmes. Importer des machines, ils ne fabriqueront jamais d'ordinateurs, ne fabriqueront jamais de logiciels. Ils importeront l'armature, l'infrastructure. Or, ils resteront là dans les termes de la fracture nord-sud. Bon, et c'est ça le problème. Or, tout ceci commence par le savoir. C'est le savoir qui est à même de régler ça. Si on n'est pas porteur de savoir, on ne peut pas asseoir un projet. C'est pourquoi cette fête est intéressante. Parce qu'au-delà du livre, c'est le savoir en tant que tel qui est vraiment à l'ordre du jour. Or, le savoir est la condition express de l'invention, de la création et partant du progrès des peuples.
Mamadou Ablaye Ndiaye. Je vous rappelle qu'il est professeur de philosophie et auteur de différents ouvrages sur les thèmes du progrès social au Sénégal et aussi sur le thème de la presse sénégalaise. Fin de cette 10e émission Niofar, on est ensemble. C'est une série réalisée à l'occasion de la fête internationale du livre de Saint-Louis du Sénégal. Réalisation et présentation Nicolas Buignet. À bientôt, Babénène.